Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Clément Salazar, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jean-Frédéric. On poursuit notre série consacrée au djihad et après avoir parlé lundi du retour des talibans en Afghanistan et au Pakistan, des islamistes de Boko Haram au Nigeria et dans toute cette région du lac Tchad, on va s'intéresser ce matin à un pays dans lequel les djihadistes ont proliféré ces derniers mois, la Libye. Libye, la fourmilière djihadiste, c'est notre sujet ce matin.
Cette arme-là, je l'ai prise à un soldat du groupe État islamique. Et grâce à Dieu, on est en train de gagner cette bataille. Et si Dieu le veut, on va tous les éradiquer.
Sirte sera leur cimetière. On va fêter l'Aïd ici. Et si Dieu le veut, permettre aux habitants de revenir chez eux.
Nous resserrons l'étau un peu plus chaque jour autour de notre ennemi, le groupe État islamique. Nous avons appelé les civils à quitter Sirte dans les 20 jours. S'ils ne le font pas, ils seront considérés comme des membres du groupe État islamique.
Il n'y a aucun dirigeant militaire ici. Où sont donc les vétérans et les colonels qui ont été formés au combat en Libye auparavant ? Pourquoi ne sont-ils pas présents avec nous sur le front ? Ici, il n'y a que des volontaires qui appartiennent au peuple. C'est le peuple libyen qui fait tout pour libérer son pays.
Des Libyens qui font tout pour libérer leur pays. On entendait notamment Mohamed Al-Ghasri, le porte-parole de l'opération Al-Bunyan Al-Marsous, conduite par des forces fidèles au gouvernement d'Union Nationale. Après deux semaines d'accalmie, les combats ont repris ce dimanche à Sirte, en Libye. Les forces gouvernementales essayent toujours de reprendre cette place forte aux derniers djihadistes de l'État islamique, désormais retranchés dans deux petits quartiers de la ville. Quatre mois après le début de l'offensive, cet ancien bastion kadhafiste, la ville natale même du colonel Muammar Kadhafi, situé à 450 km à l'est de Tripoli, eh bien, continue de résister dans de violents combats de rue. La bataille contre les djihadistes s'est également jouée cet été à Benghazi, en Cyrénaïque. Cette fois, ce sont les forces du général Haftar, le chef militaire du Parlement de Tobrouk à l'est, qui ont repris la quasi-totalité de la ville aux différentes factions terroristes. Terroriste entre guillemets, c'est sous ce terme générique que le général de 73 ans désigne la plupart de ses adversaires. Une façon pour lui d'apparaître comme le champion de l'antiterrorisme, le sauveur. Aux yeux de la communauté internationale, cet allié du régime égyptien espère en effet jouer un rôle central dans les futures négociations de paix, alors que le gouvernement d'Union nationale de Fayez Sarraj, soutenu par l'ONU, semble avoir perdu sa légitimité. Mais alors, qui tirera les bénéfices de ces multiples victoires militaires sur les groupes djihadistes et de quoi et par qui sera fait le futur de la Libye? Voilà les grandes questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, un spécialiste de la Libye, Patrick Hamzadeh, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un ancien diplomate français basé, vous étiez à Tripoli. On va commencer peut-être avec Daesh, essayer d'un peu de faire un état des lieux et voir un peu les perspectives en la matière, puisque donc mai dernier, il y a eu cette grande opération qui avait été lancée par les milices libyennes, notamment les milices de Misrata, ralliées au gouvernement d'Union Nationale, dirigées par Fayez Sarraj, soutenues par les Nations Unies. L'objectif, c'était de chasser les djihadistes de l'État islamique qui s'étaient emparés de la ville l'année dernière, à l'été 2015. Les Occidentaux, Américains, Français, Italiens ont apporté leur soutien dans cette reconquête en fournissant des drones, des renseignements. Ça fait plusieurs jours qu'on nous annonce la défaite imminente des djihadistes de Daesh dans cette ville de Sirte, qui sont maintenant, je le disais, confinés dans un vraiment petit quartier de la ville. Mais visiblement, les choses sont un petit peu difficiles à finaliser. La guérilla urbaine contre Daesh se poursuit sur le terrain.
Oui, alors il y a toujours des poches de résistance. Faut pas oublier qu'on est dans un combat de type combat de localité, finalement, où chaque maison peut constituer un enjeu à prendre ou à défendre. Et surtout, bon, les gens de Daesh sont prêts à lutter jusqu'au bout, notamment par des attaques suicides, ce qui ralentit considérablement l'action des milices de Misrata qui sont confrontées à ce type d'opération.
Mais ils vont finir par tomber.
Bien sûr, enfin, ils sont totalement encerclés, donc il n'y a pas de soutien extérieur. On peut dire que c'est une question de jours, mais des jours qui peuvent durer, hein, face à des combattants maintenant qui sont réduits à quelques individus bien décidés, ça peut durer longtemps. Et puis le deuxième aspect, c'est que ça a été évoqué un petit peu dans le son avant, c'est que les milices de Misrata ne sont pas chez elles. Hein, donc elles ont affaire à une population qui a beaucoup souffert, hein, qui est stigmatisée parce qu'ils ont, à tort ou à raison, été accusés de soutenir Kadhafi. Donc on leur a demandé de quitter leur maison, c'est pas forcément le cas. Hein, bien sûr, les gens savent que s'ils quittent leur maison, ils les retrouveront pillés ou habités par des miliciens. Et les miliciens de Misrata sont considérés comme aussi une force d'occupation. Ils ont laissé des mauvais souvenirs après la guerre de 2011. Donc tout ça, ça ne facilite pas, bien sûr, l'action. Cette action de reprise de Sirte aux miliciens affiliés à Daesh.
La milice de Misrata, justement, parce que cette bataille de Sirte, vous le dites, elle a été essentiellement menée par les milices de Misrata. Il va falloir, d'une certaine manière, que cet engagement trouve une traduction politique. C'est-à-dire qu'il va falloir, finalement, tout cela va avoir un coût pour les uns, un gain pour les autres, le gain, en l'occurrence, pour les milices de Misrata. Lequel est-il ? Ce qui va poser la question aussi, Patrick Hemzadeh, du futur de Sirte. Qu'est-ce qui va se passer à Sirte après la fin de Daesh ? Qui va pouvoir garantir la protection de la ville, la sécurité des habitants ? Qui va gérer cette ville ?
C'est toujours pareil. Pour l'instant, il n'y a pas de réflexion sur le jour d'après. Donc, effectivement, on focalise sur l'aspect militaire, la chute de Daesh. Mais la question va se reposer, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette ville, on peut imaginer que les milices de Misrata qui l'ont, entre guillemets, libérée, vont y rester. Hein, et donc, on va
c'est
se retrouver avec... Je pense que, de toute façon, il n'y a pas de force alternative pour l'instant. Il n'y a pas de force locale, de milice locale, puisque les gens ont été désarmés. Hein, ils étaient soupçonnés, ils étaient vus comme des kadhafistes. Donc, il n'y a pas eu de milice locale en 2011 qui a émergé vraiment à Sirte. Et c'est pour ça aussi que Daesh s'est installé à Sirte. C'est pas un hasard. C'est pas parce que les populations ont soutenu Daesh massivement. C'est parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'autres alternatives. Alternative pour s'y opposer, contrairement aux autres villes libérées par des rebelles ou des insurgés ou des révolutionnaires.
Elles ont occupé la place.
La
nature déteste les villes.
Et souvent, d'ailleurs, et ça, on l'a pas dit assez souvent, c'est des jeunes de Misrata ralliés à Daesh qui ont construit l'embryon de structure de l'État islamique à Sirte. C'est pas des habitants de Sirte. Hein. Donc ça, c'est important de le dire parce que la Libye, c'est un petit peu comme partout ailleurs. Il y a des jeunes qui rejoignent les rangs de Daesh, y compris dans des zones ou dans des régions qui sont parfois révolutionnaires, parfois même pro-Eftar. Hein. Il y a l'exemple ces dernières semaines du fils d'un député de l'Est pro-Eftar qui est parti rejoindre les rangs de Daesh pour se battre à Sirte. Vous voyez, donc on a aussi des fragmentations au sein des familles. Donc c'est un phénomène qui effectivement dépasse, je dirais, la logique uniquement identitaire ou tribale ou milicienne.
Est-ce qu'il y a d'autres villes qui répondent à cette caractéristique du vide dans lesquelles effectivement pourraient venir s'implanter les djihadistes de Daesh? Pourquoi pas ceux qui ont été en partie chassés de Sirte, mais venus d'un peu partout. Est-ce qu'il y a d'autres villes à Sirte, en Libye, pardon, qui sont, j'allais dire, candidates malheureusement à l'émergence d'un nouveau foyer Daesh ?
Pour l'instant, non, parce que les autres villes, bon, il y a une autre grande ville qui est Bani Walid, qui est le siège de la plus grande tribu en Libye. C'est à peu près 800 000 habitants sur 6 millions, sur une population de 6 millions. Il y a eu là des milices locales, justement, qui ont émergé à la fin de l'insurrection ou juste après, et qui ont permis justement d'occuper le terrain. Donc on peut pas dire qu'il y ait d'autres villes dans le même cas de Sirte. Et à l'est, que ce soit à Benghazi où les combats continuent, c'est un autre cas de figure également. Là, on a vraiment une opposition entre d'abord des groupes d'origine différente, hein, des groupes d'origine de Misrata qui sont plutôt opposés au général Eftar, et des groupes appartenant aux grandes tribus de l'Est qui soutiennent le général Eftar. Donc il y a une dimension locale, voire micro-locale, et puis aussi une dimension sur la vision future de l'État. Un certain nombre de gens, justement, des tribus de l'Est soutiennent Eftar, qui a une vision plutôt autoritaire et militaire d'un nouvel État, et les autres soutiennent, en tout cas, quelque chose qui serait plutôt révolutionnaire, avec une autre forme de légitimité. Et bien sûr, il y a beaucoup d'islamistes dans le tas, mais pas que. Hein. Il y a des jeunes qui sont soulevés en 2011 et qui maintenant sont aussi contre Haftar, qui sont pas forcément des islamistes.
On va évidemment s'intéresser à cette figure du général Haftar, parce que on comprend, il va falloir compter sur lui dans l'avenir de la Libye. Mais encore un mot justement pour comprendre un petit peu où en est Daesh aujourd'hui en Libye. Et de ce point de vue-là, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à Benghazi, parce que ça fait donc presque 2 ans que le général Haftar a lancé sa fameuse opération antiterroriste, et ça concernait notamment Benghazi, deuxième ville du pays, berceau de la révolution. On a toujours des groupes terroristes, alors là je mets des guillemets, à Benghazi, parce qu'on ne sait pas exactement toujours ce qu'il y a derrière ces appellations, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe à Benghazi? On a l'impression que c'est relativement partagé entre Daesh, entre des forces aussi alliées au gouvernement d'Union nationale, mais aussi des forces d'Haftar. Ça a l'air particulièrement compliqué, ce qui se passe à Benghazi.
Oui, alors il y a effectivement une fragmentation importante. Alors, grosso modo, il y a quand même deux camps, finalement. Il y a un camp qui soutient le général Haftar, qui est plutôt l'est de la ville, qui correspond à des peuplements de populations issues des grandes tribus, à l'origine bédouine de Cyrénaïque. Et puis à l'ouest de la ville, on a des gens qui sont contre Haftar, et là, qui regroupent un certain nombre de tendances. Donc ces gens sont plutôt des populations ayant une ascendance de l'Ouest, beaucoup de Misrata, de Zawiya, en Tripolitaine. Et ces gens-là sont d'abord opposés à Haftar, et donc ça regroupe les milices qu'ils combattent. Il y a des révolutionnaires, des grandes milices révolutionnaires de 2011, qui étaient défendues, qui était commandé par des gens issus soit des frères musulmans, soit de l'ancien des groupes islamiques du combat libyen, qui étaient des djihadistes à l'époque. Mais les jeunes qui sont dans ces katibas, dans ces brigades, sont des jeunes des quartiers, en fait. C'est pas forcément des gens qui sont dans une logique idéologique. Et puis, donc il y a ces grandes katibas, il y a les gens d'Ansar al-Shalira, qui sont aussi des takfiristes, des gens qui refusent la construction d'un État qui ne soit pas basé sur les bases de la religion. Et puis, bien sûr, on a les djihadistes qui sont certains affiliés à Daesh. Alors, là aussi, c'est des barrières. Il faut être très prudent sur les limites et notamment les questions d'idéologie, sachant que les jeunes, souvent, vont choisir une milice ou une autre, parfois, tout simplement, parce qu'elle est la plus puissante à un moment donné ou qu'elle a un prestige plus important, mais pas forcément sur des critères idéologiques. Donc, effectivement, on passe d'Ansar al-Shalira à l'État islamique ou inversement, en fonction des rapports de force sur le terrain.
Et puis, en fonction de ses propres connaissances, c'est tout simplement.
Des gens qu'on connaît dans cette brigade, du prestige des chefs, ça c'est important, des jeunes chefs qui ont émergé en 2011, qui continuent à drainer derrière eux des jeunes qui se battent maintenant avec eux depuis 5 ans. Donc on a des logiques, je dirais, identitaires, des logiques purement militaires. Et là, on en arrive à une question de Benghazi qui est importante, c'est que, comme je disais, il y a des quartiers qui sont alliés à l'un ou l'autre camp. Donc bien sûr, Benghazi, la situation est extrêmement compliquée et conflictuelle à terme. Elle ne se réglera pas en quelques semaines avec, comme Haftar le dit, parce qu'on a des déplacements de population, on a des exactions qui sont commises par les troupes d'Haftar dans les quartiers qu'elles ont reprises. Donc ça veut dire de la conflictualité qui va durer. Des gens qui ont quitté leur quartier, il y a à peu près plus de 200 000 déplacés à Benghazi sur une population de 800 000 habitants. Donc ça veut dire que c'est des jeunes qui vont vouloir revenir. Dès qu'ils auront des armes, ils reviendront par la force. Donc je dirais que l'ordre futur, Haftar pour l'instant n'est pas en mesure de garantir une pacification à moyen terme de Benghazi.
Ce qui est très intéressant, Patrick Hemzazi, c'est qu'il y a évidemment, j'allais dire, le combat sur le terrain, le combat militaire, mais il y a aussi une lutte qui se joue dans cette partie du pays, et notamment du côté de Benghazi, une lutte quasiment institutionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'assister, dans cette région est de la Libye, à une forme de militarisation des institutions. Par exemple, je crois que le maire de Benghazi a été remplacé par un colonel de l'armée.
Oui, tout à fait. Alors en fait, au mois d'août, le pouvoir de l'Est a relevé un certain nombre de maires élus, donc et qui sont des structures qui fonctionnaient plutôt bien et les ont remplacées par des gouverneurs militaires qui sont des colonels. Donc il y a plusieurs villes, hein, donc Ajdabiya, Benghazi, Koufra aussi dans le sud. Et effectivement, ça traduit une vision de l'État qui est une vision d'une construction étatique autoritaire sur un mode, on pourrait comparer ça un petit peu à bonapartiste en fait. Donc on reprend en main cette révolution et on décide là aussi avec des comparaisons avec l'Égypte du général Sissi, hein, puisque du maréchal Sissi, puisque d'ailleurs Haftar vient d'être nommé maréchal, il a aussi, donc vous voyez, il est monté en grade suite à l'opération qu'il a conduit il y a 15 jours et oui, ça c'est intéressant
en même temps, c'est lui qui décide
que...
de la promotion, donc
oui, voilà, tout à fait, mais bon effectivement. Et donc finalement, on a une conception de l'État qui est bien connue dans le monde arabe. Hein, on l'a dans beaucoup de pays, qui est une construction par le haut, bien sûr, et sur un mode autoritaire.
Donc construction par le haut, avec donc au sommet cet ancien général, 73 ans, à la tête de quoi, 15 000 hommes? À peu près.
C'est difficile à dire, oui, il a environ 15-20 000 hommes, et là aussi, donc il appelle sa force armée libyenne nationale. C'est vrai que, bon, il veut lui donner les composants d'une armée, mais il faut pas oublier que les jeunes qui adhèrent sont souvent des jeunes originaires des tribus qui rejoignent les Katibas en fonction, là aussi, d'appartenance locale et régionale. Donc je dirais que l'identité nationale, dont se revendique EFTA ou qu'il essaye de mettre en place, pour l'instant est embryonnaire, y compris à l'Est. Hein, c'est très fragile tout ça.
Donc Haftar à la tête de cette autoproclamée armée nationale libyenne. Écoutez ce qu'il disait, c'était il y a quelques mois, en mai dernier, dans une interview accordée à ITL.
Lors du processus de transition, après la chute de Kadhafi, certains groupes étaient en embuscade. Je parle bien sûr de groupes islamistes radicaux. Ces organisations extrémistes, Daesh et Al-Qaïda, ont recruté de très nombreux terroristes dans le monde. Ici, en Libye, leurs agissements ont été facilités par les frères musulmans. Et puis, ils ont commencé à terroriser la population. Et le chaos s'est propagé. Alors, nous avons rassemblé nos forces, éparpillées, pour faire face à ces groupes terroristes qui tentaient de prendre le contrôle de l'armée, de la police et des appareils sécuritaires. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus très loin d'éliminer ces groupes terroristes.
Plus très loin d'éliminer ces groupes terroristes, Daesh n'a aucun espoir de s'enraciner, disait le général Haftar. Faisons l'hypothèse que finalement, il n'a peut-être pas complètement tort. Et essayons de voir comment maintenant il est en train de déployer sa stratégie. Donc, alors que la bataille contre l'État islamique n'est pas encore terminée, ce général, rappelons-le, donc chef de l'armée nationale libyenne, qui contrôle l'essentiel de la Cyrénaïque, qui refuse de reconnaître l'autorité de M. Sarraj, a investi les trois terminaux pétroliers situés dans l'est de la Libye, le fameux croissant pétrolier dont tout le monde parle, par lequel transite à peu près la moitié du pétrole libyen lorsque l'exploitation est normale, disons. Alors, c'est pas une opération visiblement qui a demandé beaucoup d'efforts parce qu'il n'y a pas une grande mobilisation en réalité. On a tout simplement pris les terminaux assez facilement. De leur côté, les Occidentaux, Washington, Paris, Rome, Berlin, tout le monde a appelé à un retrait immédiat et sans condition des forces armées de ce croissant pétrolier. L'émissaire des Nations Unies, Martin Kobler, a lui mis en garde contre des divisions et a rappelé quand même que ces installations pétrolières, elles devaient être sous le contrôle du gouvernement d'Union Nationale. Alors je voudrais essayer de comprendre ce geste, Patrick Hemzadeh. Est-ce que c'est, disons, un acte de provocation à l'égard du gouvernement d'Union Nationale? Est-ce que c'est aussi un message adressé aux chancelleries occidentales qu'il voudrait bien voir se rallier à lui? Comment comprendre?
Bah, écoutez, c'est un peu tout. Faut voir qu'en Libye, ce qui se joue en ce moment, c'est une lutte pour le pouvoir. On a une lutte pour le pouvoir, donc bien sûr il y a un certain nombre de candidats, à l'ouest comme à l'est, qui se réclament de différentes tendances, et le général Haftar bien sûr est un de ces candidats. Donc bien sûr la prise des terminaux pétroliers, qui s'est faite d'ailleurs le premier jour de l'Aïd, une grande partie des jeunes qui gardaient les sites étaient rentrés dans leur famille, ils étaient assez peu mobilisé. On n'a plus de nouvelles de Joudran qui, entre parenthèses, a pris beaucoup d'argent. On parle de plus de 50 millions de dollars pour ces dernières semaines pour paiement de ses hommes. Donc on ne sait pas trop où
Joudran, disons-le pour les auditeurs, c'est l'homme qui était à la tête de la milice locale chargée de la sécurité de ces terminaux.
Qui gardait les terminaux pétroliers. Ouais. Donc beaucoup de gens, effectivement, se disent qu'à posteriori, tout cet argent est parti dans la nature. Et bien sûr, la prise des terminaux pétroliers, ça donne du poids politique à Haftar, hein, dans cette lutte pour le pouvoir qui est engagée. En même temps, ça lui permet de toute façon de confirmer qu'il n'a pas l'intention de soutenir ce gouvernement d'union nationale qui n'a jamais reconnu. Hein, il a estimé que c'était prématuré, qu'il n'y avait pas eu assez de consultations, qu'il n'avait pas, qu'il méritait d'être chef de l'armée et que ça lui avait été refusé. Et donc là, il y a un gros différent entre lui et Kobler. Entre lui et l'envoyé spécial des Nations Unies. C'est une affaire maintenant presque de personne, je dirais que... D'ailleurs, cette affaire pourrait signifier la fin à terme, enfin dans quelques semaines, du mandat de l'envoyé des Nations Unies qui finalement, maintenant, en Libye, commence à devenir plus un problème, une focalisation qu'un début de solution.
Quoi, vous pensez que c'est pour se débarrasser de Kobler ?
Non, je pense pas.
Vous avez pas tort, c'est que, d'une certaine manière, en prenant ces terminaux, il va falloir que le gouvernement d'Union nationale, pour qui c'est une affaire de survie, parce qu'il a besoin de ce financement-là, il va falloir que ces forces-là reprennent ces terminaux. Et du coup, peut-être, lâche, j'allais dire, sur les fronts contre l'État islamique, ce qui est absolument impensable du côté des Nations Unies.
Oui, là, c'est l'option militaire. Mais je pense qu'il y a une autre option qui est en train de se dessiner. Je pense qu'en Libye, on a souvent aussi des logiques très pragmatiques d'alliances. Et là, ce qu'on peut imaginer, c'est que Haftar s'est engagé à exporter le pétrole, et les revenus du pétrole, comme c'est de toute façon légal, iront...
Il s'est engagé auprès de qui ?
C'est pas lui qui décide. À partir du moment où le pétrole est vendu, l'argent sera mis dans les caisses de la Banque centrale. La Banque centrale qui est à Tripoli. Donc finalement, je pense que le coup d'Haftar, c'est pas lui d'empocher l'argent, mais de montrer qu'il prend les terminaux, le pétrole est exporté, l'argent rentre à nouveau dans les caisses de l'État. Donc la population, vous voyez, c'est vis-à-vis de la population, se présenter comme quelqu'un qui débloque cette situation et modifier l'équilibre politique au sein même du GNL.
Mais je veux comprendre pourquoi est-ce que les terminaux aux mains de Haftar fonctionneraient mieux qu'ils ne fonctionnaient déjà. Ils étaient sécurisés. Alors soit l'exploitation n'était pas au niveau d'avant Kadhafi, mais ils étaient déjà exploités.
Alors ils étaient exploités, mais le problème c'est que comme c'était Haftar qui contrôlait les eaux territoriales et qui avait dit effectivement qu'ils intercepteraient des bateaux qui viendraient se ravitailler de facto aucun bateau n'était venu exporter de pétrole sur les terminaux, parce qu'en fait il contrôlait l'environnement, hein, c'est lui qui avait les bateaux de guerre, et aucune compagnie internationale ne se serait lancée dans une opération s'il n'y avait pas une sécurisation maritime du site. Donc là aussi c'est intéressant, parce que finalement du coup il se repositionne comme celui qui aura rétabli l'autorité de l'État entre guillemets, et puis il va avancer ses pions, parce que forcément les candidats d'Haftar, enfin les soutiens d'Haftar au niveau du gouvernement d'Union nationale vont voir leur pouvoir renforcé. Donc on voit bien que tout l'équilibre, ça va modifier tout l'équilibre, et notamment la composition et la forme même du gouvernement d'union nationale. Donc, ce qu'ils demandent, c'est un retour à l'accord de Srelat du mois de novembre, qui prévoyait une nomination d'Haftar directement par le président du conseil présidentiel, et qui soit directement sous les ordres du chef de l'État. Lui, il veut pas être sous les ordres d'un ministre de la Défense. Il veut pas être sous les ordres d'un politique.
Donc, et est-ce que vous pensez que ce pari-là pourrait fonctionner ? Est-ce que vous pensez que ce coup de force pourrait pousser effectivement tout le monde à remettre en selle, quand je dis tout le monde, c'est à la fois les Libyens, mais aussi peut-être la communauté internationale, à revoir son positionnement et à remettre en selle Haftar, à forcer pourquoi pas le gouvernement d'Union nationale à lui trouver cette place dans le paysage politique ?
Oui, bien sûr, ça va obliger de toute façon la communauté internationale à revoir sa copie. Je pense que dans les semaines à venir, on va voir que la situation est bloquée. Maintenant, il se heurte aussi, bien sûr, un certain nombre de forces puissantes à l'ouest qui ne veulent pas son retour. Donc là, on risque effectivement d'arriver à un nouveau blocage. Comment ce blocage pourra être levé? Est-ce que ça passera par une confrontation militaire ou une situation de partition de facto? Vous voyez, avec deux ordres qui un à l'est et un à l'ouest qui perdurent encore pendant quelques années, c'est difficile de le dire. Mais je vois mal pour l'instant un accord politique se dessiner parce qu'il y a vraiment des lignes de blocage. Les gens à l'ouest ne veulent pas d'Eftar. Alors est-ce que ça va faire évoluer les positions? C'est difficile parce que ils sont vraiment ça fait partie des lignes rouges.
S'il n'y a pas d'accord politique, c'est quand même une mauvaise nouvelle aussi pour le gouvernement d'Union nationale. Souvenez-vous le 30 mars dernier quand le Premier ministre désigné alors du gouvernement d'Union nationale, Fayez Al-Farraj, débarquait de ce navire militaire dans le port de Tripoli pour s'imposer auprès des autorités qui à l'époque quand même lui étaient assez hostiles. Il avait réussi finalement à obtenir leur ralliement, il jouissait d'une certaine aura. On est 6 mois plus tard, on a quand même la sensation que ce gouvernement d'Union nationale, il a plus justement la même aura et la même légitimité. Quel avenir vous voyez-vous à ce gouvernement d'Union nationale?
Moi, je pense que c'est fini. Enfin, et dans sa forme actuelle, c'est fini. Et il a eu effectivement le pari de la communauté internationale, c'était de le faire venir, de l'amener avec bien sûr des garanties de sécurité à Tripoli. Au début, il ne faut pas oublier qu'il était cantonné dans sa base navale et qu'il n'avait même pas accès au reste de la ville de Tripoli. Donc, ça a plutôt bien fonctionné, hein, puisque c'est vrai qu'il a réussi à au moins à durer 6 mois, hein, à vivre plutôt en sécurité. Le problème, c'est qu'en fait, il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour améliorer le quotidien des gens en termes sécuritaires. Il faut savoir qu'en ce moment, à Tripoli, il y a des coupures d'électricité 12 heures par jour. Hein, il fait très chaud, les gens souffrent. Il n'y a pas de cash dans les banques. Donc les gens font la queue pendant des heures pour aller.
Mais la situation s'est empirée par rapport à il y a 6 mois.
La situation s'est empirée. Donc, si vous voulez, le peu de crédit qu'avait Serraj depuis 6 mois, c'est totalement dégradé. Et les gens se disent, mais ils passent tous leur temps dans les palaces, ils passent leur temps à l'étranger. Et c'est vrai, la semaine dernière, quand il y a eu le coup de force du général Haftar, il n'y avait quasiment aucun membre du conseil présidentiel sur 8 ou 9 qui était en Libye. Ils étaient tous, un à Rome, en vacances, l'autre à... Donc finalement, aux yeux de la population, ce gouvernement s'est discrédité. Et c'est vrai que le pari de la communauté internationale, c'était de le faire venir et en disant après, il va y avoir des ralliements, on va avoir un cercle vertueux, ce pari a échoué. Voilà. Donc,
et est-ce qu'il y a des raisons de croire que la population libyenne se dirait aujourd'hui que peut-être la solution Haftar est une meilleure solution pour eux, qu'elle permettrait d'améliorer leur quotidien? Parce que d'une certaine manière, lui non plus, alors il y a effectivement le côté militaire, il y a aussi une grande activité diplomatique de la part d'Haftar. On le voit, il a envoyé une délégation très récemment du côté du Tchad, à N'Djamena. Il y a aussi une délégation qui est partie du côté de Ouagadougou, Burkina Faso. On voit qu'il y a aussi beaucoup de travail au niveau de la diplomatie. Est-ce que les Libyens peuvent penser que la solution Haftar serait meilleure pour eux?
Alors oui, et puis faut pas oublier qu'il a un soutien puissant de l'Égypte, des Émirats, et puis un soutien militaire de la France aussi. Hein, on l'a vu avec les 3 soldats français qui sont morts aux côtés des troupes d'Eftar en Libye au mois de juillet.
Soutien oui, français ou ambiguïté française? Parce qu'on n'a pas le même message du côté du ministère.
Non, j'ai parlé
défense.
De soutien militaire.
Ouais, c'est ça, hein,
j'ai parlé de soutien
et
militaire.
Pas de soutien diplomatique.
J'ai parlé de soutien diplomatique. Donc, mais un soutien militaire, ça joue quand même. Enfin, quand ça contribue à le légitimer et à lui le conforter dans l'idée qu'il sera soutenu et qu'il doit continuer son combat.
Oui, alors, ça parce que rappelons-le pour les auditeurs, cet été, il y a effectivement cette affaire des 3 membres de la DGSE qui sont morts dans un accident d'hélicoptère, un hélicoptère de
l'Haftar. Oui, qui a été abattu par un missile.
Ce qui a prouvé très clairement qu'il y avait une forme de soutien de la défense française pour le général Haftar.
Oui,
parenthèse fermée.
Voilà. Et donc, alors maintenant, ce qu'il faut dire, est-ce que ça a des chances de marcher auprès de la population libyenne, notamment à l'ouest? C'est très difficile à dire. Je pense pas. Pour l'instant, les gens sont encore beaucoup ne veulent pas d'un retour de l'ordre ancien, des militaires, surtout. Les grandes milices de l'Ouest, la population, c'est difficile à dire. C'est vrai qu'ils sont prêts à accepter, maintenant un retour de l'ordre, voire un ordre autoritaire pour voir leur situation s'améliorer. De là à penser qu'il pourra s'imposer à l'Ouest, je crois qu'il y a un fossé. Mais c'est vrai qu'effectivement, il bénéficie d'attentes de la population qui veulent à nouveau un État fort. Ça c'est clair.
Est-ce que Haftar pourrait bénéficier du soutien de la communauté internationale? Je mets des guillemets là. Disons clairement Washington, Paris, par exemple.
Bon, enfin, l'histoire nous a appris qu'on a souvent des revirements. Donc, je dirais qu'il y a des canaux. Il a des canaux, que ce soit avec la France ou les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'il a vécu 20 ans aux États-Unis. Donc, bien sûr qu'il a des canaux.
Et puis, en Virginie, pas très loin de l'Anglais. Tiens.
Oui, il vivait à côté du siège de la CIA. Alors, tout ça aussi, faut pas oublier qu'en Europe, aux États-Unis, on est dans une logique de guerre contre le terrorisme. On peut imaginer que ce type d'acteur sécurise, forcément, mais c'est un petit peu paradoxal dans le sens où finalement on voit que c'était déjà le discours qui était tenu par Kadhafi il y a quelques années, donnez-moi des armes, je suis le rempart contre le terrorisme et l'islamisme. Donc finalement, on pourrait dire tout ça pour ça, on peut imaginer qu'il y ait à terme une évolution des positions des pays étrangers à l'égard d'Haftar.
Une évolution qui sera en fait un retour 5 ans en arrière.
C'est ce que disent beaucoup. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même beaucoup de gens à l'Est qui sont prêts à combattre ça, parce que pour eux, c'est la contre-révolution, Haftar.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Haftar, la contre-révolution, Djihad, les nouvelles lignes de front. On parle aujourd'hui de la Libye avec Patrick Hemzadeh. On va traverser les frontières, Patrick Hemzadeh, et aller du côté de l'Algérie. Est-ce que Daesh pourrait trouver dans l'Algérie une nouvelle terre de refuge, voire une terre de reconquête? Est-ce qu'il faut le craindre? Quelles sont les dispositions d'ailleurs pour protéger ces frontières? Que font les autorités en la matière? L'Algérie, c'est évidemment un pays qui a encore ce souvenir sanglant de la décennie noire, le conflit qui a opposé le gouvernement algérien et les groupes islamistes, notamment le GIA, le groupe islamique armé. Tout ça est encore très très prégnant, mais est-ce que c'est suffisant pour échapper au djihadisme mondial? Est-ce que c'est suffisant pour éviter que Daesh ne s'installe en Algérie? On va retrouver Selma Belala, qui est chercheuse à l'université de Warwick au Royaume-Uni. Elle est au micro de Tiffaine de Rocchini.
L'implantation aujourd'hui des djihadistes est en Kabylie, principalement, dans les montagnes en Kabylie, et une partie dans la bande frontalière avec le Mali et la Libye. Mais ce sont généralement des groupuscules itinérants qui passent de part et d'autre de la frontière dans des espaces communs avec le Sahara libyen ou encore le nord du Mali. Aujourd'hui, le GIA n'existe plus. Il a été complètement, je dirais, vaincu grâce notamment à une action populaire de résilience dans les principales régions où il était implanté, dans la région de la Midida, dans la province d'Alger. Ensuite, il y a eu un mouvement qui est ACMI, qui a repris le relais sur la base du GSPC, qui aujourd'hui a une organisation qui est certainement en déclin en Algérie, mais qui reste quand même très active dans les pays frontaliers, notamment les pays subsahariens.
Selma Belala, après le recul de l'État islamique à Sirte, l'Algérie pourrait devenir une zone de repli ou de transit pour les hommes de Daesh. L'inquiétude de l'Algérie est d'autant plus forte qu'il y a des installations gazières importantes sur la frontière algéro-libyenne. Alger veut éviter à tout prix une nouvelle attaque comme celle d'In Amenas en janvier 2013. On se souvient de cette prise d'otages massive menée par un groupe islamiste dissident d'ACMI. Quelles mesures sécuritaires ont été mises en place ces derniers mois, ces dernières semaines pour empêcher cela? Et est-ce que ce sera suffisant selon vous?
Alors effectivement, le premier souci aujourd'hui à l'issue de l'échec de Daesh à Sirte est la question du repli. Et Daesh ne peut pas aujourd'hui se replier dans des régions urbaines. Donc fatalement, le choix ira vers le sud libyen, donc vers les régions sahariennes, voire frontalières, donc avec le Tchad, avec l'Algérie, et aussi peut-être plus difficilement avec la Tunisie, parce que ce sont des régions plutôt, je dirais, semi-urbaines, voire des régions quand même accessibles, je dirais. Voilà pourquoi le choix des territoires sahariens, à la frontière algérienne et la frontière tchadienne, est aujourd'hui une option fort probable de repli. Ce ce repli a posé problème aux Algériens dès le début de l'année et les Algériens ont opté immédiatement pour une politique de renforcement des frontières, de renforcement surtout de bouclage, je dirais, des frontières avec la Libye. Mais on voit que c'est largement insuffisant parce qu'il y a encore un flux, un échange entre les populations qui sont des populations communes, notamment les populations Touareg dans les grands départements de l'extrême sud algérien et libyen. Et ces populations vivent à cheval entre les deux pays et il est très difficile, bien évidemment, de mettre fin à leur déplacement ou de l'interdire plutôt. Voilà pourquoi les mesures sécuritaires classiques de bouclage de frontières, notamment les frontières sahariennes, est nécessaire mais largement insuffisant. La question de l'adhésion des populations à la politique de rejet de Daesh, de rejet d'Hakimi est aujourd'hui essentielle. Et c'est là-dessus que se posent aujourd'hui les véritables questionnements. Est-ce qu'il y a suffisamment d'actions en termes de politique publique, en termes de soutien aux populations de la part des acteurs publics, des acteurs internationaux de coopération, d'aide internationale, d'aide au développement, pour assurer l'adhésion des populations à la faveur d'une résilience et d'un rejet du projet politique djihadiste.
Vous pensez qu'il pourrait y avoir une assise populaire, un soutien populaire des populations du sud de l'Algérie à l'arrivée des combattants de l'État islamique, un soutien qui serait idéologique ?
Le soutien idéologique, non, parce qu'il y a eu l'expérience avec le GIA, avec le GSPC et l'ACMI qui a, je dirais, soldé le soutien. Il y a eu une prise de conscience de la part de l'opinion publique algérienne, des populations sahariennes en Algérie, de ce que est réellement la réalité du projet politique djihadiste, sur le fait que c'était un projet de destruction et d'anéantissement de l'État-nation et de l'ordre politique en place. Les Algériens ont intimement compris et connu ce que représentait le djihadisme. En revanche, il y a des failles, il y a des fragilités sur le plan économique parce que les populations sahariennes aujourd'hui sont complètement bouleversées par des déséquilibres démographiques. Il y a de plus en plus de jeunes au chômage. La majorité de la population est composée de jeunes qui subissent un échec scolaire très important, le plus important pratiquement au niveau national. Donc il y a la question du développement qui est le nerf de la guerre et qui aujourd'hui n'est pas suffisamment prise en compte par les politiques algériennes qui sont davantage occupées, formatées par une approche sécuritaire classique.
Oui, et ça on le voit notamment avec le fait qu'il y a 35 000 hommes qui ont été déployés sur le front Est en Algérie et l'armée qui s'est modernisée avec des moyens de visée nocturne, des moyens de détection thermique. On voit qu'il y a de plus en plus d'agents de renseignement qui sont déployés, qui se sont fondus dans la population. Toute cette professionnalisation de la lutte antiterroriste, c'est quelque chose que vous avez constaté également, Selma Belala?
On a du mal à la voir parce que ce sont des communes. Pour vous donner un exemple, la commune de Djanet fait 4,5 fois la surface de la Belgique. Donc il est très difficile dans des territoires désertiques de cette immensité d'avoir une idée de ce qui se fait sur le plan militaire, parce que tout se fait aux frontières.
Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire de l'ONU en Libye, a salué le rôle actif et constructif de l'Algérie. L'Algérie est en train d'essayer de s'acheter une posture régionale.
Je pense que les Algériens ont eu, dans le cadre du dialogue interlibyen, un rôle équilibré parce qu'ils n'ont pas soutenu un acteur militaire qui est le général Haftar, qui est soutenu par l'Égypte et par les Émirats. Ils n'ont pas non plus joué le jeu de soutenir telle ou telle région. Donc le régionalisme libyen, que ce soit la Cyrénaïque ou la Tripolitaine, et ils ont poussé vers un dialogue multilatéral et ils ont beaucoup aussi œuvré pour qu'il n'y ait pas d'intervention internationale pour le respect d'une souveraineté libyenne. Voilà pourquoi leur intervention semble équilibrée et objectivement dans l'intérêt de la nation libyenne et non pas à la faveur des ressources pétrolières ou bien de tel ou tel belligérant. Mais je ne pense pas que ça puisse pour autant donner à cette politique une envergure sous-régionale, comme on aimerait le croire. Parce qu'il y a Hakimi au Mali, en Tunisie, aussi en Algérie, et tant qu'il y a encore ce problème, la politique algérienne ne pourra pas acquérir à nouveau une envergure tant qu'elle n'a pas résolu la question Hakimi, c'est clair.
Voilà, Selma Belala, chercheuse à l'université de Warwick au Royaume-Uni, au micro de Tiffaine de Ruchini. Elle nous le disait, il y a ces difficultés économiques et sociales, évidemment, pour l'Algérie, qui sont autant sujets d'inquiétude et qui pourraient constituer un terreau favorable pour son implantation. Mais en même temps, elle ne voit pas de soutien idéologique possible pour les Algériens. Il y a trop de souvenirs qui sont encore là. Je voudrais vous entendre, Patrick Hamzadeh, à propos de cette Algérie. Et puis peut-être, il y a quelque chose qu'elle ne dit pas si clairement que ça, Selma Belala, c'est que, en réalité, les Algériens quand même en veulent aux Français et aux Britanniques d'avoir renversé Kadhafi sans imaginer les conséquences qu'il pouvait y avoir derrière, parce que eux savaient ce qu'il pouvait y avoir comme type de conséquences. Patrick Hamzadeh.
Oui, oui, tout à fait. Ça a été la position algérienne dès le départ. C'est pas d'ingérence, à plus forte raison, française, en tout cas européenne, en Afrique du Nord. Donc, et le président Bouteflika était très clair là-dessus. Et je pense que c'est un sentiment qui est partagé. Enfin, je parle aussi sous le contrôle de ce qu'a dit de Selma Belala tout à l'heure, qui était absolument éclairant. Oui, la population algérienne, bien sûr, était contre cette intervention, était sur la même ligne que son pouvoir. Alors ça c'est aussi le fruit d'une histoire, et d'une position politique qui n'a pas changé depuis l'indépendance.
Je voudrais, Patrick Hamzadeh, pour cette fin d'émission, qu'on se tourne du côté du Maroc, parce que le Maroc, c'est évidemment un foyer de recrutement pour Daesh. Il y a beaucoup de jeunes Marocains qui vont en Irak, en Syrie, mais aussi en Libye pour se battre. C'est pas complètement nouveau, puisqu'on se souvient évidemment, pas complètement nouveau que le Maroc soit aussi atteint par le terrorisme islamiste. On se souvient bien sûr des attentats de 2003 à Casablanca qui avaient fait 43 morts. Mais peut-être que la menace est encore accrue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui partent donc pour grossir les rangs de l'État islamique. Je voudrais qu'on écoute peut-être un instant un extrait du dernier discours du roi du Maroc, donc commandeur des croyants, gardien de l'orthodoxie sunnite, un discours contre le djihadisme. C'était le 20 août dernier à l'occasion du 63e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Écoutez.
Bien évidemment, nous condamnons vigoureusement le meurtre d'innocents et sommes convaincus que l'assassinat d'un prêtre est un acte illicite selon la loi divine et que son meurtre dans l'enceinte d'une église est une folie impardonnable, car c'est un être humain et un homme de religion, quand bien même il n'est pas musulman. Les terroristes qui agissent au nom de l'islam ne sont pas des musulmans et n'ont de lien avec l'islam que les alibis dont ils se prévalent pour justifier leurs crimes et leurs insanités. Ce sont des individus égarés, condamnés à l'enfer pour toujours. Nous sommes tous visés. Quiconque pense ou croit en ce que je dis est une cible potentielle pour le terrorisme qui a frappé le Maroc, puis l'Europe et de nombreuses régions du monde. Face à la prolifération des obscurantismes répandus au nom de la religion, tous les musulmans, chrétiens et juifs devront dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et le repli sur soi, sous toutes ses formes.
Voilà, c'est un discours qu'il avait prononcé juste après, effectivement, l'assassinat de ce prêtre à Saint-Étienne de Rouvray. Ce sont des individus égarés, condamnés à l'enfer pour toujours, avait-il dit. On va retrouver Mohamed Tozzi, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Mohamed Tozzi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, vous êtes professeur d'université, vous êtes par ailleurs écrivain. Beaucoup ont salué au Maroc le discours de Mohamed VI, considérant qu'il était réellement sans précédent. Est-ce qu'il vous avoue aussi surpris, Mohamed VI, Mohamed Tozzi?
Pas beaucoup, mais parce qu'il y avait déjà un discours qu'il avait dit précédemment en Arabie Saoudite, où il avait plus ou moins attaqué le djihadisme, mais à travers le djihadisme, mis en garde ses partenaires du Moyen-Orient sur l'ouahabisme. Mais là, il va un peu plus loin dans ce discours du 20 août. Non seulement il fait la promotion de son statut au Maroc de commandeur des croyants qu'il prend en charge, si vous voulez, une sorte de définition d'un périmètre d'orthodoxie d'un islam marocain, mais en même temps, il s'adresse, il condamne, donc bien sûr, sans aucune ambiguïté de djihadisme, mais il s'adresse aussi à la communauté des Marocains du monde.
Alors ça, c'est pour les discours, Mohamed Tozzi. Après, il y a le terrain. On voit sur le terrain que régulièrement, les autorités marocaines arrêtent des individus qu'ils soupçonnent d'être des combattants de l'État islamique. Regardez, en juillet dernier, par exemple, il y a eu 52 personnes qui ont été arrêtées. On voit très bien que depuis les attentats de Gaza, il y a régulièrement des démantèlements de cellules djihadistes. Est-ce qu'on peut dire que finalement, sur le terrain, le bilan, s'agissant des dispositions qui sont prises par les autorités marocaines pour éviter le départ de ces combattants, est-ce que ce bilan est plutôt bon, selon vous ?
Si on part de la stratégie de communication, oui, le bilan est globalement bon. Pratiquement chaque semaine, le bureau central d'investigation judiciaire, qui est la nouvelle organisation, qui est un peu l'équivalent d'un organisme central contre le terrorisme américain, donc une sorte d'américanisation, si vous voulez, de dispositif, annonce des démantèlements. Le Maroc s'est doté d'un arsenal juridique et législatif assez, disons, qui lui donne la possibilité d'anticiper des attentats. Il a défini en même temps de ce que c'est que l'orthodoxie, donc en faisant la promotion d'une sorte de religion officielle, structurée, bureaucratisée, etc. Tout ça fait que il dispose d'un certain nombre de leviers qui permettent, si vous voulez, d'anticiper et de démanteler des cellules. Mais le Maroc n'est pas plus ou moins vulnérable que les autres pays. Il est dans la même situation.
D'où viennent les Marocains, justement, qui sont candidats au djihad ? Est-ce qu'il y a un profil, disons, des spécificités culturelles, géographiques ?
Si, c'est-à-dire sur le plan global des statistiques qu'on a, parce que bon, en recoupant plusieurs ressources, on est globalement autour de 2000 combattants marocains qui sont en Syrie et en Irak. La majeure partie de ces gens-là reviennent de l'arc ce qu'on appelle l'arc du Tangérois. Donc c'est entre Tanger et El Nador, notamment dans la proximité des villes de Melilla et de Ceuta.
Toute dernière question, Mohamed Tozzi, une question extrêmement difficile. Vous avez probablement entendu ici en France certaines voix de responsables politiques qui se sont élevées pour interdire le salafisme. Ce mouvement, c'est de retour aux sources. Hein, les salafs, ça se réfère aux croyants de la communauté musulmane idéale des premiers temps. Au Maroc, il y a bien sûr des mouvements, il y a des partis aussi qui se revendiquent salafistes. Alors, c'est évidemment extrêmement divers en réalité. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de formes très différentes et ce salafisme ne conduit pas systématiquement à la violence. Peut parfois, mais il peut aussi conduire à certaines radicalités. Est-ce que Mohamed VI est conscient de cette dérive possible d'un certain salafisme ? Et est-ce que l'essor du djihadisme a modifié sa position à son égard ?
C'est que, bon, bien sûr que le concept de salafisme, c'est pas une doctrine, c'est une posture. C'est une posture à une relation au texte, une relation au passé. Et cette posture est relativement simplifie le rapport à la religion et donc donne la possibilité, j'allais dire, d'embrasser un islam un peu globalisé. Mais elle offre aussi des possibilités de basculement rapide vers le radicalisme, dans la mesure où elle accentue le décalage entre les pratiques et le référentiel. Au Maroc, ce qui est maintenant décidé de façon presque officielle, c'est de prendre des distances avec la formulation wahhabite du salafisme. Là, il y a une sorte de même si au niveau diplomatique et on est très prudent par rapport à cette question vu la place qu'occupe l'Arabie Saoudite dans le parterre des relations marocaines, mais il y a tout un ensemble de dispositifs aussi bien au niveau de la reformulation des manuels scolaires que de la formation des imams, pour justement prendre des distances avec l'ouahabisme, la version ouahabite du salafisme.
Mais est-ce que vous diriez que ça fonctionne ? Parce qu'effectivement, on voit qu'au Maroc, le roi a misé et continue de miser d'ailleurs sur le salafisme politique qui lui permet d'équilibrer un peu ce paysage politique et notamment face aux forces de gauche. Mais est-ce que cette intégration d'un certain salafisme, c'est un pari gagné ? Parce que l'ambition, c'était de contenir l'islam politique et surtout dans ses dérives les plus radicales. Est-ce que le pari est gagné ?
Non, c'est très difficile. C'est là aussi une option plutôt américaine. Donc, parier sur une intégration, disons, d'une variante du salafisme, qui serait le salafisme quiétiste ou piétiste. Mais je pense que les ingrédients du salafisme, les ingrédients idéologiques du salafisme, le prédisposent à basculer dans la violence, ou à basculer dans une sorte de radicalité, d'abord théologique, par la suite d'une radicalité qui le pousse à s'engager dans la transformation de la société et la transformation violente de la société. Ça, il n'y a pas de doute.
Patrick Enzadeh, réaction courte, en guise de conclusion.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est,
rien
c'est
à ajouter.
Non, rien du tout.
Merci beaucoup à Mohamed Tozzi, en tout cas, qui était avec nous par téléphone, qui est politologue, qui est professeur d'université, qui est écrivain et qui avait d'ailleurs fait partie de la commission consultative de révision de la Constitution qui avait été annoncée par Mohamed VI en 2011 pour répondre aux revendications du fameux mouvement du 20 février. À une prochaine occasion, peut-être on lui demandera quel bilan, justement, il fait de cette révision constitutionnelle. En tout cas, j'indique pour les auditeurs qu'il est l'auteur notamment de L'État d'injustice au Maghreb, Maroc et Tunisie. C'était chez Cartala. Mais aussi un ouvrage phare, j'allais dire, Monarchie et Islam politique au Maroc, c'était aux presses de Sciences Po. Et un grand merci à vous, Patrick Enzadeh, de nous avoir éclairé aujourd'hui sur cette situation libyenne.
Oui, merci. Ben, j'entends en fond sonore, c'est un rappeur de Benghazi qui était dans une grande milice, d'ailleurs, qui combattait il y a quelques mois. Il est mort en début d'année.
Ah, ben voilà, nous n'avions pas cette information. Nous savions que c'était un rappeur de Benghazi. C'est Charles, effectivement, qui l'a déniché sur Internet, mais nous n'avions pas cette information. Nous ne savions pas qu'il était mort. Donc voilà, finalement, une sorte d'hommage à ce rappeur. Merci beaucoup, en tout cas, Patrick Hamzadeh. Je rappellerai votre ouvrage, Au cœur de la Libye de Kadhafi, c'était chez Lattès. Merci. Nous allons quitter les lignes de front du djihad pour aller sur d'autres lignes, celles des idées. C'est l'heure du tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Avec Brice Couturier, bien sûr. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, depuis le début de cette semaine, vous nous parlez de smartphone. L'apparition du smartphone a modifié nos manières de vivre, de percevoir le temps. Vous nous en avez déjà parlé en début de semaine. Mais dans certains pays en développement, ces nouveaux outils ont aussi permis une augmentation spectaculaire de la productivité. En Afrique, par exemple, le mobile permet d'apporter des services bancaires, médicaux, administratifs, y compris dans les zones rurales.
Oui, et l'Afrique, il faut le savoir, est le deuxième marché mondial pour la téléphonie. On estime que cette année, le nombre d'abonnements au mobile sur la planète entière devrait dépasser les 7 milliards. Plus de la moitié ont été souscrits en Asie et en Afrique. Cela aura un impact décisif sur la croissance, déjà brillante dans des pays comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Mozambique ou le Rwanda, la Tanzanie aussi. Selon les études de la Banque mondiale, une pénétration de 10% du haut débit dans un pays en développement se traduit par une augmentation du PIB de l'ordre de 1,4%. Et pourtant, le débat fait rage en ce moment dans les pays développés, cette fois entre techno-optimistes et techno-pessimistes. La querelle tourne autour d'un fait incontestable, mais difficile à expliquer. Comment se fait-il que la vague d'innovation spectaculaire que nous connaissons ne se soit pas traduite par une augmentation de la productivité ? Car la productivité qui avait fait des bons jamais vus dans l'histoire de l'humanité entre 1850 et 1970 stagne depuis 2008. C'est comme si la crise financière avait brisé un des ressorts de l'enrichissement collectif de cette époque bénie. En Amérique du Nord, en Europe, la valeur ajoutée par rapport au nombre d'heures travaillées ne progresse plus que très faiblement. En Amérique latine aussi, elle stagne et le Japon a été la première économie à souffrir de cette étrange léthargie dont nul ne comprend bien l'origine et qui apparaît très difficile à combattre. Ce pays a pourtant été à la pointe de l'innovation. Alors le célèbre économiste Larry Summers en a tiré la prédiction devenue fameuse d'une stagnation séculaire des économies anciennement développées. Pour cet ancien secrétaire au trésor de Bill Clinton et ancien président d'Harvard, nos économies avancées sont promises à plusieurs décennies de surplace économique. Nos pays font face à un sous-investissement chronique et notre main-d'œuvre vieillit. Cela ne peut que plomber notre croissance potentielle. Alors Nouriel Roubini, qui est un des oracles de la science économique, sa notoriété est fondée sur le fait qu'il est l'un des très rares économistes au monde à avoir prédit de manière détaillée la crise de 2008, à avoir identifié sérieusement ses causes et annoncer ses effets. Roubini, donc, fait plutôt partie des techno-sceptiques que des techno-pessimistes. D'un côté, dit-il, nous constatons tous la très faible croissance de la productivité des économies du Nord. Elle est incontestable. De l'autre, des gourous comme Erik Brynjolfsson, dont je reparlerai demain, nous disent que nous vivons une ère de progrès technique digne de celle qu'ont connue nos ancêtres lors de la révolution industrielle. Pourtant, constate Roubini, il y a des secteurs où ces innovations promises sont bel et bien déjà en route et on ne les perçoit pas toujours. C'est le cas de l'énergie, avec les réseaux intelligents, les progrès extraordinaires dans les renouvelables ou dans le stockage. Ce sont les biotechnologies, avec tout ce qu'on peut attendre des thérapies géniques, de l'utilisation des données. Ce sont bien sûr les technologies de l'information, celles que nous connaissons le mieux, avec création d'applications à jet continu pour nos smartphones, big data, internet des objets, intelligence artificielle. Dans le domaine de la production, ben c'est la robotique, l'automatisation, les imprimantes 3D. Mais on oublie souvent d'ajouter à cette liste les techniques financières, d'une part, et de l'autre, les systèmes destinés à la défense, dont l'effet d'entraînement sur les autres activités peut se révéler immense.
Mais alors pourquoi brisent toutes ces belles innovations ne sont-elles pas traduites par une augmentation de la production par heure de travail ?
Eh bien, les pessimistes, comme Robert Gordon, nous disent « l'impact de ces innovations sur l'économie en réalité est très faible. Elle ne saurait en tout cas se comparer avec ce qu'ont apporté en leur temps à l'industrie le moteur à combustion interne ou bien l'électricité. Ni le smartphone et ses applications avec des découvertes comme celles de l'automobile, du téléphone, de l'avion ou de la télévision. D'autres nous jugent tout simplement trop pressés. Les avancées technologiques en cours de développement ou d'application n'ont pas encore eu le temps de révolutionner le monde du travail, disent-ils. Mais elles vont se traduire par une baisse spectaculaire des coûts de production qui se répercuteront inévitablement sur les prix à la consommation. Le temps qu'une innovation produise ses effets sur la productivité peut simplement être long, avertissent ces économistes. Patience, le meilleur reste à venir. En attendant, écrivent plusieurs commentateurs, les politiques, eux, vont avoir à gérer des populations de plus en plus impatientes de voir, comme aux États-Unis, une minorité s'enrichir dans des proportions considérables, tandis que stagne ou s'amenuise le pouvoir d'achat de la majorité. L'adoption des nouvelles technologies, fait remarquer par exemple Danny Roderick, professeur à Harvard, a eu pour conséquence d'aggraver considérablement les inégalités de revenus. Elle favorise les ultra-qualifiés qui bénéficient des fantastiques opportunités que leur offre à eux la mondialisation, mais elle prive de leur emploi les peu qualifiés victimes de cette même mondialisation. Cette dispersion des revenus est l'un des inconvénients du deuxième âge de la machine, comme le reconnaissent les auteurs de ce livre, du livre qui porte ce titre. Et si vous le voulez bien, Florian, nous en parlerons demain.
Eh bien, avec grand plaisir, Brice. On peut bien sûr retrouver votre chronique sur la page de France Culture, www.franceculture.fr. Il y a une page qui est même dédiée autour du monde des idées. Les auditeurs ne le savent pas encore, mais ils vont le découvrir. Dans quelques instants, on retrouve Olivia Gesbert et ses invités autour de la grande table.